L'intimité, la vie affective et la sexualité sont des libertés fondamentales pour tous. Une personne en situation de handicap a droit à une vie privée et à une vie intime, affective et sexuelle, libre et épanouie. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Frequenza Nostra. Nous voici ensemble pour un nouvel épisode d'Isula Nuda, l'émission qui vous déshabille. Et aujourd'hui encore, eh bien, let's talk about sex. J'ai presque fait en chantant, presque, hein, c'était limite, mais on va arrêter là. Plus exactement, parlons de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. La loi reconnaît aux personnes en situation de handicap le droit au respect de leur vie privée et à l'exercice de leur autonomie, y compris dans le domaine de la sexualité. Ce droit inscrit aussi le respect de l'intimité et des droits sexuels dans les établissements et services pour personnes en situation de handicap. Alors, nous aurions vraiment aimé aborder ce sujet avec le personnel de certains de ces établissements, malheureusement, des annulations de dernière minute. Mais d'ailleurs, au vu des annulations et refus que nous avons rencontrés lors de la préparation de cette émission, et sans vraiment vouloir incriminer les personnes qui ont dû annuler, hein, loin de là, je me suis quand même interrogée sur le tabou autour de la sexualité des personnes en situation de handicap. Ne veut-on pas ou n'ose-t-on pas parler de sexe et de handicap? Déjà, on a l'impression que parler de sexe, c'est compliqué. Mais en plus, sexe et handicap, apparemment... Enfin bref, je me suis posé la question. La loi oblige donc. Mais qu'en est-il, justement, en réalité? Qu'en est-il de la société, de son regard sur les personnes en situation de handicap et leur vie affective et sexuelle? Comment aborder cette thématique avec elles, avec les familles et avec l'entourage? Autant de questions que nous allons soulever avec nos invités. Merci, merci à elles d'être là. Je vais vous laisser vous présenter, mais bien sûr, un Isula Nuda ou une Isula Nuda, on ne sait pas, tiens, d'ailleurs, si c'est féminin ou masculin, et c'est peut-être justement pas genré.
Par principe, ce sera féminin.
Ouais, ah, voilà, il y a quand même le féminisme qui ressort. Ben voilà, mon acolyte de toujours, j'ai envie de dire, Paul Maerten, coordinatrice à C3S, Corse Stratégie Santé Sexuelle. Paul, bonjour.
Sabine, bonjour.
Eh bien, je vais te laisser peut-être présenter ou...
Oui, bien sûr.
Allez, on y va.
Eh bien, tout d'abord, je suis très déçue parce que désormais, tu n'es plus à côté de moi. Donc, je t'ai en face à face et je trouvais quand même beaucoup plus convivial l'époque où tu étais avec nous autour de la table. Mais fini cette parenthèse, je vais présenter les personnes.
Je rebondis sur ta parenthèse. Ben, écoutez, dès que nous aurons des financements pour embaucher un réalisateur technique et nous pourrons faire notre métier d'animatrice et journaliste à pleinement, avec grand plaisir, Paul.
Merci pour ce message, point, point, point. Du coup, on est accompagné aujourd'hui pour cette émission, pour une fois très sérieuse, hein, d'Aude Grisogne et Emma Kloster du réseau Intimagir. Donc, les filles, je vais vous laisser bien évidemment le temps de présenter votre structure qui, mine de rien, sur le territoire est relativement récente puisque c'est un nouveau dispositif national. Et on est accompagné également de Stéphanie, qui je laisserai se présenter aussi, et qui, dans la vie de tous les jours, est photographe avant tout.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors, on va peut-être les filles Intimagir, c'est ça? On explique
oui.
Un peu qui se lance. Emma.
Bonjour, bonjour tout le monde. Emma Kloster, chargée de projet pour le centre ressources Intimagir Corse.
Voilà. Qu'est-ce donc Intimagir Corse?
Alors...
Bon, jusqu'à Corse, on sait. Enfin, oui. Je crois.
En fait, c'est un centre ressources Intimagir. Il y en a un par région. Ça fait suite au Grenelle contre les violences faites aux femmes, organisé par Marlène Schiappa en 2019. Et donc, du coup, on a pour vocation de favoriser, accompagner les personnes en situation de handicap qui souhaitent atteindre une santé sexuelle globale dans son ensemble et épanouie.
C'est déjà bien. Oui, mais c'est bien, Emma. Eh bien, on a senti, c'est un petit peu le stress, c'est normal. Il faut dire à nos auditeurs et auditrices, pardon, que nous nous étions rencontrés toutes les trois, Emma, Aude et moi, lors des caravanes d'Arnaud Gallet qui ont eu lieu en juin, en janvier. Voilà, c'était à Porto-Vé. Voilà, je sais, là, du coup, je vous ai un petit peu sollicité. Venez sur le plateau. C'est un petit peu toujours compliqué, on le sait, hein, la radio au début, mais après, ça se passe très bien. On a encore mangé personne, pense que c'est pas prévu, donc ça devrait aller. Aude, tu souhaitais peut-être ajouter des choses par rapport à ce qu'a dit Emma?
Mais moi, je suis animatrice territoriale pour le centre ressources. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est lutte contre les violences sexistes et sexuelles des personnes en situation de handicap et soutien à la parentalité.
Rien que ça. C'est un sacré programme.
C'est un sacré programme, d'autant plus qu'il faut préciser que aux auditeurs et aux auditrices que la santé sexuelle, ce n'est pas que les IST et le VIH, parce que tout à l'heure tu parlais des caravanes d'Arnaud Gallet et de cette rencontre à cette occasion, mais c'est aussi les violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants, aux hommes aussi, bien sûr, et aussi donc aux personnes en situation de handicap, puisque ce public est considéré comme public vulnérable et prioritaire.
Ok. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce que j'aimerais... c'est ce que j'ai un peu évoqué en préambule de cette émission. J'aimerais qu'on parle de cette sensation, en tout cas, que j'ai eue, moi, d'un tabou existant autour de cette sexualité. Alors, Emma et Aude, vous, on a bien compris que c'était aussi, voire principalement, un engagement de ce centre ressources. Est-ce que ce tabou, vous le ressentez ?
Alors, ce tabou, oui, on le ressent, mais je pense qu'on le ressent surtout au niveau de la sexualité. Évidemment, encore plus quand ça concerne les personnes en situation de handicap, mais parler de sexualité, parler de santé sexuelle, c'est quand même pas facile. Et moi, je voudrais rebondir aussi, la santé sexuelle, c'est aussi du plaisir, c'est aussi quand ça se passe bien, c'est aussi des trucs hyper agréables, enfin, c'est pas que les violences et les IST. Mais évidemment, le public en situation de handicap est invisibilisé. C'est pas nouveau, c'est pas que sur les questions de sexualité. Donc si on rajoute à ça de l'intimité, évidemment que c'est un tabou. Mais pas forcément plus, je pense que...
Oui, et si je peux me permettre d'ajouter, je pense que quand on parle de... en tout cas, quand on demande aux professionnels qui accompagnent et qui accueillent des personnes en situation de handicap de parler de la sexualité de ces personnes, c'est aussi avant tout parler de sa propre sexualité. Ça remet en question ses propres représentations, ses propres pratiques, ses propres comportements. Et donc, du coup, de là peut découler des tabous et des difficultés à aborder le sujet.
Alors effectivement, il y a déjà, hein, on le sait, hein, Paul, ça fait un petit moment déjà que ces émissions sont en route. On sait qu'il y a quand même une espèce de chape autour de la sexualité. Ça tend à se démocratiser, ça tend à s'ouvrir parce qu'il y a du travail qui est fait par des associations notamment. Hein. Là, maintenant, on sent qu'il faut passer un cap au-dessus, c'est-à-dire que, ok, la sexualité, une vie affective et sexuelle épanouie, mais bien précisée pour toutes et pour tous, qu'on soit né ou pas né avec un handicap. Alors, ça serait bien aussi peut-être de redéfinir le handicap, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul handicap, Emma Cluster.
Oui.
Alors Emma, le principe d'une radio, c'est de parler dans le micro.
Oui, tout à fait. La situation de handicap, en fait, elle est à mettre surtout au regard de la participation sociale à la vie citoyenne. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'est pas en capacité de le faire, on se trouve en situation de handicap. C'est à nuancer avec d'autres notions qui entourent le handicap, qui sont peut-être les incapacités ou les déficiences. En termes de déficiences, disons, en effet, il y a plusieurs typologies. Donc, déficience sensorielle, auditive, visuelle, déficience motrice, déficience intellectuelle. Alors même si quand même le terme déficience n'est pas beau finalement, parce qu'il a une connotation un peu péjorative, mais j'aime bien faire le point là-dessus par rapport à la situation de handicap, parce qu'une personne qui peut être considérée comme en situation de handicap, c'est-à-dire reconnue en fait par la MDPH, peut ne pas se trouver dans une situation de handicap si la société autour d'elle est adaptée. Et c'est ce vers quoi on tente de tendre.
Alors, oui, Aude ?
Non,
je... Okay. N'hésitez pas justement à rebondir. Hein. Alors, il y a les handicaps aussi visibles, ceux qui sont invisibles. Stéphanie qui est là. Stéphanie, donc ce handicap, il est invisible ?
Invisible, malentendant. J'entends un peu, je peux parler, donc voilà, j'ai invisible. Voilà.
Donc, il y a ça aussi, hein. Il peut y avoir... de l'incompréhension. Nous, on reçoit ici, on a entamé un travail notamment avec le GEM Mousse-Contre et avec l'ASCOS ou de Castellucci, où on reçoit ici des personnes qui sont soit cérébro-lésées, soit qui sont atteintes de troubles psychiques et handicaps dans leur vie de tous les jours. Et ce sont des handicaps qui ne se voient pas. Peut-être que, Paul, je ne sais pas, tu veux réagir. Toi, par rapport à ces trois S, comment vous abordez justement la chose? Est-ce que vous l'abordez? Bon, je sais que vous le faites, mais pour nos auditeurs et auditrices, ça serait peut-être bien de le rappeler.
Bien, au niveau de ces trois S, on a un dispositif qui s'appelle l'EVARS, l'EVARS 2A, donc espace de vie affective, relationnelle et sexuelle, dont les missions sont de travailler auprès de différents publics, hein, pas que le public en situation de handicap, mais notamment. Et donc, pour le moment, l'EVARS, qui est un dispositif très récent, puisqu'il a démarré au mois de janvier, propose des ateliers collectifs et des entretiens individuels pour les personnes en situation de handicap. Donc, on travaille notamment avec une institution qui prend en charge les jeunes en situation de handicap. Et pour l'instant, on en est aux entretiens individuels, mais c'est d'une richesse incroyable, évidemment. La seule chose, c'est que forcément, on part de loin, parce qu'avant de parler des plaisirs, comme le disait tout à l'heure Aude, et à juste titre, parce qu'il faut aussi promouvoir la santé sexuelle, mais dans certains cas de handicap mental, parfois, on doit commencer dans un échange avant de parler du plaisir, mais de revenir au béaba, c'est-à-dire le corps humain, qu'est-ce que c'est que les organes génitaux, comment on s'en sert, et avec des questions aussi auxquelles je ne m'attendais pas, hein, très sincèrement, mais est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Et à cette réponse, par exemple, qui était, on va dire, très générale, hein, la réponse a été, bien, c'est la petite graine dans les choux. Donc, on doit en revenir vraiment à qu'est-ce qui fait le corps humain, où ça se passe, etc., pour pouvoir, après, travailler en groupe sur des thématiques de promotion de la santé sexuelle. Mais on voit bien que si demain il n'y a pas des structures ou des dispositifs nationaux ou régionaux ou départementaux, peu importe, pour intervenir auprès de ces publics, eh bien on s'aperçoit que les éducateurs, les éducatrices, les animateurs, animatrices dans le cadre des situations de handicap ont tellement de choses à faire déjà au quotidien que travailler autour de la question de la relation à l'autre, la vie affective et du coup la santé sexuelle, la vie sexuelle, eh bien c'est forcément très très loin. Donc, nous aussi, j'imagine, on essaye de planter des graines auprès des publics.
Vous, c'est aussi ce que vous ressentez toutes les deux, Emma et Aude?
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que, à contrario, les personnes, on va dire, dans l'éducation nationale, les classes ordinaires, il y avait, alors je ne sais plus la loi, l'instruction, mais en gros, 3 séances par an, par niveau. Et là, on voit qu'il y a un peu une effervescence autour du centre ressources Intimagir, notamment en Corse, où on commence à faire appel à nous pour mettre en place des ateliers de sensibilisation. Et en fait, on comprend bien que ça n'a jamais ou très peu été fait. En tout cas, à chaque fois, c'est une initiative isolée. Et ça commence à devenir un petit peu plus un engagement structurel, organisé. Mais voilà, il faut du temps, il faut laisser aussi le temps au temps et on est là pour accompagner. Mais donc, ce qui explique peut-être la question, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Donc,
alors, sur le territoire, l'éducation à la santé sexuelle dans les établissements scolaires se fait notamment par les centres de santé sexuelle de la collectivité de Corse. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'autres associations parce qu'il y a énormément d'établissements scolaires et que normalement la santé sexuelle, c'est de la maternelle au secondaire.
Oui, oui, oui. Donc, je voulais dire, en établissements et services médico-sociaux, moi en tout cas le constat que je fais, c'est que jusqu'à présent, peut-être que les interventions n'étaient pas de manière... systématisée. Et donc, du coup, ça explique peut-être des questions qui peuvent paraître un petit peu qu'on aurait l'impression qu'elles aient déjà été traitées. Et finalement, on en est encore là.
Et puis, quand il s'agit d'un handicap ou d'un trouble psy, ou en tout cas d'un handicap qui cognitif. N'est pas forcément... qui est cognitif. Merci, Emma. On peut imaginer aussi que tout n'est pas clair. Tu le disais, selon les troubles qu'on a, le corps n'est pas perçu de la même manière que quelqu'un qui est dit, qui est dit ordinaire. Voilà. Donc, il y a aussi ce genre de choses.
Alors, je suis en partie d'accord, mais pas entièrement.
C'est plus une question que je pose.
Je ne sais pas si c'est tant le fait de voir son corps
de
et de le percevoir, plus que le fait, en fait, de depuis toujours, pour la personne qui est notamment en situation de handicap mental, de ne pas avoir forcément la famille, pas forcément l'entourage psychoéducatif, qui va, dès le plus jeune âge, dire par exemple, le pénis, le matin, à partir d'un certain âge, est en érection et qu'il y a des choses à faire, hein, que tout le monde comprendra, bien évidemment, mais à cette heure-ci, on va éviter de... Bon, bref, voilà. mais tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément la perception qu'ils et elles ont d'eux-mêmes, tant que le fait que l'entourage n'étaye pas les questions de santé sexuelle. Parce que si la personne en situation de handicap te dit, à l'âge de, par exemple, je ne sais pas, entre 20 et 25 ans, te dit que pour avoir des enfants, c'est la petite graine dans le chou, eh bien, peut-être que c'est parce qu'il n'a entendu que ça. Et que peut-être le travail qu'on fait... De dire en fait comment ça se passe, ne serait-ce que pour la procréation basique et râler-pâquerette, peut-être que c'est la première fois que la personne va entendre ça et que ça va faire son petit bonhomme de chemin.
Donc c'est vraiment des questions qui... Oui, Emma?
en fait, je pense qu'en effet, c'est à nuancer. Il y a de ça, et puis il y a aussi du fait que il y a des idées conceptuelles qui sont peut-être moins accessibles pour certaines personnes selon où elles se placent, où elles se positionnent. Oui, c'est à nuancer.
Oui, puis effectivement, il y a des troubles qui empêchent de savoir comment est fait le corps. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sentent même pas qu'elles ont des bras, qui ont l'impression d'être des trous béants, etc. Donc c'est très compliqué, j'imagine, pour ces personnes-là, en plus de leur parler sexualité. Et ça n'empêche que ces personnes-là ont des besoins sexuels aussi. Hein. Donc ça, c'est un sujet qui est... Enfin, c'est très vaste, on va en aborder plein. Mais alors, ça veut dire que... Il y a des personnes qui, comme vous maintenant, des associations ou la collectivité de Corse qui a mis ça en place depuis déjà quelques temps, qui informe. Mais pour informer, il faut soi-même être informé. Pour être informé soi-même, il faut se former. Est-ce que les professionnels, selon vous, sont formés ? Parce qu'il y a ça aussi. Alors, c'est vraiment dommage que les personnes que j'attendais n'aient pas pu venir, parce que ça aurait été vraiment intéressant de savoir si, quand on travaille notamment dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, que ce soit des adolescents ou des adultes, est-ce qu'on est suffisamment formé à la sexualité et à la santé sexuelle, en fait, selon vous ?
Je pense que non, parce qu'en formation initiale, par exemple, d'éducateur, éducatrice spécialisée, il y a un très court volet sur la sexualité. Et il n'y a pas de formation continue non plus. Après, c'est toujours au bon vouloir des structures et en fonction du temps, en fonction des moyens financiers, mais on en revient toujours eux-mêmes. Pour former les professionnels, ça veut dire qu'il faut les détacher du groupe, et pour les détacher du groupe, il faut qu'il y en ait assez. Enfin, c'est encore une fois, moi je pense que c'est vraiment de la faute de personne, et encore moins des professionnels des établissements qui, eux, font bien ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ce qu'on veut bien leur donner.
Ça aussi, manque de moyens ?
Ah, manque de moyens financiers, manque de moyens en termes de ressources humaines. Il y a d'autres manques encore ?
Oh, je pense qu'il doit y en avoir encore, mais effectivement, déjà, ce sont ces deux-là qui sont principaux. Donc, il y a quand même une volonté, se former. Comment on se forme à la santé sexuelle en matière de handicap, en tout cas sur le territoire français ?
Il y a des personnes qui sont compétentes sur le continent. Alors, j'en connais pas à ma connaissance en Corse. qui peuvent, alors les établissements et services médico-sociaux peuvent envoyer certaines personnes ou de leur équipe sur le continent pour aller se faire former auprès de ces personnes, ou bien faire venir le formateur, la formatrice en question sur le territoire. Et sinon, nous-mêmes, le Centre Ressources Intimagir, on propose une formation à destination des professionnels de SMS, qui a pour but d'intégrer la santé sexuelle au sein des pratiques médico-sociales. Donc c'est une formation qui dure 4 jours, 2 fois 2 jours avec un mois d'intervalle, et pendant lesquels on va, à l'aide d'animations, travailler autour des représentations liées aux sexualités, travailler autour des représentations des handicaps aussi, travailler sur la loi, puisqu'on a un cadre juridique quand même en France qui encadre l'accès et normalement l'obligation de donner accès, merci, à la vie intime, affective, sexuelle des personnes concernées. Et puis aussi, on travaille sur des outils, des supports qu'on présente pour qu'eux-mêmes, ensuite, derrière, s'en saisissent et les utilisent quotidiennement dans leur accompagnement. Voilà, ça, c'est un peu un palmarès.
Mais alors, ça veut dire que, bon, OK, former les professionnels, et les professionnels, après, pour répondre aux questions, ils vont répondre aux questions des usagers, mais tu le soulignais aussi, Paul, peut-être des familles. Ça aussi, c'est important, de quelque part, d'informer et former les familles.
Ah bah oui, parce que, enfin, en tout cas, dans la toute petite expérience que j'en ai, par exemple, pour expliquer, pour que les parents acceptent qu'il y ait des interventions sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, ça a dû en passer par de la pédagogie auprès des parents, de mineurs d'un certain âge, mais aussi de jeunes adultes, hein, donc les parents étaient présents. Et c'est marrant parce que du coup, j'avais beaucoup plus d'inquiétude de rencontrer les parents du coup que les jeunes en question, parce que j'avais peur d'être maladroite. Et en fait, bon, ça s'est super bien passé. Les parents étaient présents et en fait, ils étaient super contents. Ils étaient super contents qu'à un moment donné, des personnes de l'extérieur prennent le relais. Parce que, par exemple, une maman disait « Bon, bah, moi, je suis mal à l'aise. Mon gamin, en gros, est grand. Quand je le retrouve à la maison en rentrant du travail, bien, il va se masturber devant un film, mais sans forcément être dans sa chambre, etc. » Bon, les parents sont confrontés à plein de choses. Donc, d'avoir le relais avec des associations comme Intimagir ou comme le dispositif EVARS ou avec les centres de santé sexuelle, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque part une façon aussi de dire « Bon, bah, vous allez faire un peu le job là où finalement on ne sait pas quoi. » Mais au même titre que les parents d'un ado qui ordinaire, pour reprendre ton terme que j'aime bien, d'un ado ordinaire qui, à un moment donné, va devoir expliquer que bah, quand le matin il se réveille et qu'il est en érection, bah, c'est tout à fait normal. Mais c'est des sujets qu'on a du mal à aborder avec nos proches.
Alors justement, je suis tombée sur un livret qu'a édité la DAPEI. Alors je le rappelle, hein, c'est une association départementale de parents et d'amis de personnes handicapées mentales. J'ai pris cet extrait parce que je trouvais qu'il il relatait vraiment, il imageait vraiment. Alors je vous le lis. « La vie affective et sexuelle des personnes handicapées intellectuelles est souvent cernée d'interdits plus ou moins explicites. » La négation de leurs droits n'est pas seulement le fait de professionnels isolés ou de parents peu à l'aise avec ces questions, elle procède de tout leur environnement humain, proches, médecins, paramédicaux, tuteurs, assistantes sociales, etc., et de l'organisation concrète de leur lieu de vie et de leur quotidien. L'absence d'espace, de moments de liberté permettant d'échapper aux contraintes du collectif, la persistance d'interdictions dans les règlements intérieurs des établissements, pourtant rendu illégal par la jurisprudence, donc ça veut dire que ça existe encore, enfin en tout cas, si le livret est à jour, sont autant d'obstacles objectifs à l'épanouissement d'une vie sexuelle. Quand il n'est pas ouvertement affiché, l'interdit supposé ou fantasmé n'en est pas moins intériorisé par les professionnels, les parents et les personnes elles-mêmes. Donc on le voit que c'est... Enfin, c'est présent, hein. C'est présent. Enfin, il y a des mots qui sont quand même très, pour moi, très choquants, qui est déjà le mot interdit. Donc ça veut dire que qu'il soit, comme on dit, affiché ou qu'il soit simplement supposé ou fantasmé, enfin simplement c'est déjà énorme, ça veut dire qu'il y a encore un travail monumental à faire et que tout le monde doit s'y mettre. Oui, allez-y.
Pardon, pour revenir au niveau des parents, je pense que la petite nuance qu'il faut mettre, c'est que quand les enfants ados sont en situation de handicap, il y a très souvent une différence entre l'âge physique corporel et l'âge comportemental. Et effectivement, bah, moi je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand notre ado arrive à 11-12 ans, inconsciemment, on est tous plus ou moins OK pour se dire « la puberté commence ». Par contre, effectivement, quand votre enfant a 11-12 ans, mais qu'il a un âge développemental de 2-3 ans, donc pas verbal avec des couches, c'est souvent aussi pour ça que les parents sont pas forcément dans une sorte de déni, parce que je pense que c'est pas le bon terme. Mais il y a vraiment une spécialisation dans le handicap, pour moi, qui me semble importante sur les questions de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, parce que c'est pas non plus la même approche que pour des personnes valides. C'est pas la même parentalité que quand nos enfants sont dits ordinaires. Ouais.
Emma, tu voulais réagir toi aussi ?
Oui, non, mais ça me fait penser à l'étude qu'avait pu mener Alain Giamy, qui est sociologue français, et je crois que c'était dans les... Alors là, j'ai peur de dire des bêtises, mais genre dans les années 80, donc ça fait un moment, et qui travaillait sur les représentations véhiculées par les professionnels ainsi que par les familles sur la sexualité justement des personnes en situation de handicap, et où on voyait que les professionnels c'était plutôt autour d'une image un peu de bête assoiffée de sexe, et les familles autour d'une image de personnes petit ange asexuées. Et on peut sentir parfois encore ces représentations qui sont véhiculées, mais je pense que ça tend à s'améliorer, à prendre conscience, surtout que là les établissements et services médico-sociaux ont eu une circulaire du 5 juillet 2021 qui leur a été adressée et où il a été clarifié justement ce qu'on entendait par le droit à la vie privée, à l'intimité et la vias. Et on voit bien que ça commence à faire son effet, mais bon, on est en 2024. Ça...
Juste la vias, la vie affective et sexuelle, hein, j'imagine. Ok. Paul, justement, peut-être Stéphanie, elle peut apporter un témoignage, ou en tout cas, elle, avec peut-être un entourage aussi, est-ce que ça a été facile, ou alors comment elle perçoit justement tout ce qu'on est en train de dire ?
J'ai pas très bien compris, voilà. Mais...
Comment... Par rapport à tout ce qu'on dit sur qui reste de la théorie et un petit peu de pratique, toi, qu'est-ce que tu aimerais répondre à ce dont on parle ?
J'ai du mal à parler avec les parents ou à l'école, avec les éducateurs. C'est très difficile d'en parler, surtout pour les sourds et les malentendants. Du mal à... Ils ne connaissent pas du tout la sexualité. Donc, on est obligé de faire nous-mêmes toute seule, sans avoir les parents, les éducateurs, les professeurs, rien, parce qu'on ne nous aide pas. Donc, on est complètement à l'écart, parce que nous, comme on dit souvent, nous, les sourds et malentendants, vous n'allez pas comprendre, donc on est plus souvent dans les placards, quoi, fermés dans les placards. Donc...
Waouh.
C'est parce que le sourd et malentendant, ils ne comprennent pas. Donc, ils n'ont pas les mots, les phrases. Donc, ils ne vont pas comprendre. Donc, on les ferme.
Alors que, pour le coup, c'est un handicap qui n'est pas du tout cognitif. Il n'y a pas de déficience intellectuelle. Et la seule chose qu'il y aurait à adapter, c'est les supports. Et c'est un petit peu ce que disait Emma tout à l'heure. Que justement, dans une société qui est adaptée, la situation de handicap est quand même bien moindre.
Mais c'est après, ça. Il faudrait... déjà, nous, en Corse, on a un interprète pour toute la Corse. Même en France, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais il nous faudrait plus d'interprètes, mais surtout beaucoup d'intermédiaires et d'interfaces pour nous expliquer tout ça. Parce que franchement, on est complètement à l'écart, quoi. Et ça nous manque pour nous, pour pouvoir communiquer, pour tout, hein, pour aller à la gendarmerie, pour les personnes qui veulent porter plainte ou tout. Mais non, il n'y a pas d'interprète, il n'y a personne, quoi.
Alors ça, c'est... Merci Stéphanie pour ce témoignage, parce que c'est un sujet que nous avons souvent évoqué à cette antenne, notamment avec le pôle surdité de Corse, ce manque d'interprètes et en même temps aussi ce manque de la part de la société civile d'aller vers une langue qui est différente, parce qu'il existe la langue des signes française, elle s'apprend, elle s'enseigne. Maintenant, effectivement, ça demande du temps, hein, c'est comme n'importe quelle langue qu'on ne connaît pas, il faut l'apprendre. Mais ça permettrait, ça aussi, si on l'enseignait peut-être dans les écoles, ça permettrait peut-être de moins vous isoler.
On a déjà, avec l'association de Sûr, de la crèche et à la maternelle, parce que les enfants et les bébés, ils peuvent apprendre la langue de Chine, on appelle ça le bébé Chine, mais il y en a très peu, et dans le collège, il n'y a personne, donc il faudrait qu'il y ait plus pour pouvoir...
Voilà, ça aussi, hein. Alors, je rebondis hein, sur ce que tu disais, Aude. Ce qui est fou, c'est de se dire ce n'est pas un handicap cognitif, donc c'est juste le support, en tout cas, c'est juste un manque de compréhension, de communication.
Exactement. Et d'adaptation.
Exactement, ouais.
Mais juste pour revenir sur ce que tu disais au niveau des questions des violences, des plaintes, il y a la MPF, donc la Maison de protection des familles, qui est une aile de la gendarmerie, qui est quand même formée sur toutes ces questions-là et qui peut s'adapter. Alors, il y a l'interprète, malheureusement, ils ne l'inventeront pas, mais par contre, qui ont des solutions qui peuvent être plus facilement adaptables que n'importe quel autre pôle de la gendarmerie.
Bah, déjà, oui. On l'avait proposé pour la gendarmerie, qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui apprennent la langue de Chine pour pouvoir communiquer. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas... Ils disent qu'ils veulent, mais pour l'instant, il n'y a personne qui manifeste, quoi.
Oui, enfin bon, c'est moi je trouve ça super hein, que la MPF ait cette volonté, c'est formidable, mais encore une fois, ça tient aux humains qui s'y trouvent. Hein. Je pense notamment à Sandrine Delattre pour le 2B et au commandant Charot dans le 2A. Mais encore une fois, tout ça, c'est mignon, mais c'est du bidouillage, en fait. On fait avec les moyens du bord, etc. Il y a un moment donné, toutes les régions de France, et la Corse en particulier, parce qu'on est très isolé, pour faire venir un interprète en Corse, c'est compliqué, parce qu'il faut des disponibilités, etc. Peut-être que la solution serait aussi d'avoir un interprète tout court, et... à temps plein sur le territoire insulaire.
Mais est-ce que c'est pas... on parle là au niveau de l'interprète, mais en matière de vie sexuelle et affective, est-ce que, et de handicap, est-ce qu'au final, ce n'est pas une politique qu'il faut carrément inventer ? On a l'impression qu'il y a... Voilà, comme disait Paul, que c'est du bidouillage.
Pas inventer, à l'améliorer, mais y mettre les
moyens.
Donc
elle existe déjà.
Mais elle existe, puisqu'on entend depuis tout à l'heure, et c'est ce dont on parle, et tu l'as dit dans ton introduction, il y a le cadre juridique qui dit que on a des circulaires, on a des associations qui disent, qui crient, tu vois. Mais il y a un moment donné...
Mais c'est la société civile et le droit. Et... la politique et le politique.
Ouais, seulement si tu suis un petit peu ce qui a été notifié, notamment sur et signé au niveau international dans la charte d'Ottawa, puis par suite dans la charte de Bangkok, c'est que tous ces gens-là, hein, politique, institutions, associations, société civile, etc., on doit tous collaborer et travailler ensemble de façon transversale. Ça a été signé. Pourquoi on ne le fait pas ?
La question est posée. Emma.
Oui, et puis au-delà de ça, il y a la loi de 2005 qui normalement,
c'est normal.
Qui insiste sur le fait que toute structure doit être adaptée, accessible. Et encore, il faudrait s'y pencher pour voir si c'est pas seulement l'accessibilité PMR, donc personne à mobilité réduite. Je ne sais pas s'il figure, je ne sais pas, je pose la question. Ou si les accessibilités faciles à lire et à comprendre, accessibilité interprétariat, etc.
Donc ce qui est fou, c'est de se dire que déjà, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est un constat hein, qui est mené encore au 21e siècle, on a, quand on a un handicap, on a une difficulté ou des difficultés simplement à vivre sa vie. Et on le voit qu'en matière de vie affective et sexuelle, eh bien, on ne déroge pas, en fait. C'est exactement la même chose. Par exemple, bon, on a compris, hein, Stéphanie, il faudrait un interprète, en tout cas pour ce handicap quand on est sourd et ou malentendant. Mais qu'est-ce que tu verrais de plus, est-ce que, par rapport ne serait-ce qu'à la société, que ce soit la société civile ou que ce soit les politiques, qu'est-ce que tu attendrais pour faire bouger les choses?
Et bah, que c'est une langue obligatoire, dès la maternelle. En France, déjà, il y en a pas mal. Mais nous, en Corse, il faudrait que dès la langue maternelle, primaire et collège, que tout le monde prenne le cours de français, de mathématiques, de histoire, géographie, mais que la langue de Chine soit obligatoire. Que moi, j'ai les bases de la langue de Chine pour pouvoir communiquer.
Et pour pouvoir donc expliquer le corps humain.
Exactement.
C'est essentiel.
Alors, on va continuer. On a plein de questions. Enfin, moi, j'ai plein de questions qui me viennent forcément. Il y a des sujets qu'on aimerait aborder. Et il y en a un auquel je tiens particulièrement parce que j'ai fait quelques recherches dessus et j'ai découvert qu'il existait des assistants sexuels. J'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet-là. On se retrouve, on va partir un peu en musique, tu es avec l'amie Katy Perry. On se retrouve après, le temps d'aller vous chercher à boire parce que vous devez avoir un petit peu soif. Donc, on part avec Katy Perry et on se retrouve de suite après.
A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky.
Perry sur Frequenza Nostra 99 FM. Eh bien, c'est l'heure d'Isulanuda, l'émission qui vous déshabille. Une émission en partenariat avec nos amis de C3S, Corse Stratégie Santé Sexuelle, représentée comme à chaque fois par notre ami Paul Maerten. Ça va, Paul, depuis tout à l'heure ?
toujours très bien, mais nous en profitons, toi et moi, pour remercier bien évidemment l'Agence Régionale de Santé et la CPAM 2A de nous permettre de faire cette émission ensemble.
Oui, c'est très bien de le dire, Paul, tu as raison. Remercions les gens quand ils nous aident, parce que, eh bien, on rappelle que nous sommes alors une association pour toi, une association pour nous, une petite radio associative qui fait comme elle peut avec les moyens qu'elle a et qui ne sont pas toujours des grands moyens, et des fois un peu d'aide et un peu d'aide financière, ça ne fait pas de mal. Donc merci Paul justement d'avoir soulevé la question. Alors nous parlons sexualité bien sûr comme dans tous les Isoulanoud, mais nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui est, alors non pas que les autres ne soient pas sérieux, loin de là, mais qui demande effectivement un peu plus de, peut-être un peu plus de sérieux. Des fois on rigole, bon ça ne nous empêche pas de rigoler non plus, mais voilà, on parle de handicap et de sexualité, de handicap, de vie affective. Parce que ce qui est important aussi, c'est que la sexualité, c'est aussi la vie affective, et la vie affective, c'est aussi la sexualité. Alors, pas toujours, hein, c'est pas toujours collé, hein, on peut avoir une vie affective sans avoir besoin de sexualité, mais toujours est-il que... Moi, j'aimerais, alors, on va rappeler avec nous, donc, Aude et Emma, qui sont bien, qui font partie du centre ressources intimes Agir, et Stéphanie, qui est malentendante et qui est venue apporter aussi, et son témoignage, et surtout, nous ancrer dans la réalité, parce que Paul le disait tout à l'heure, nous parlons, on fait des théories, mais il y a la réalité de vivre avec un handicap, et la réalité quand on vit avec un handicap, et bien des difficultés d'avoir accès à l'information, et notamment en ce qui nous concerne l'information sexuelle. Merci déjà Stéphanie pour être venue.
Plaisir.
Donc on l'a entendu, hein, Stéphanie qui est malentendante, eh bien l'appel, nous on le lance, ça fait déjà longtemps, des interprètes en langue des signes.
On n'est pas aussi gourmand, hein. Un seul pour le territoire, tout le monde s'en contenterait. Hein.
Je crois que non, il faut aller bien au-delà. Je pense que là encore, c'est pour ça que je parlais de politique tout à l'heure, qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une vraie politique en matière, je pense, de handicap. Et ça, je le dis en mon nom, hein, en mon nom propre. J'ai l'impression qu'on fait du bricolage parce qu'on s'aperçoit de plein de choses, et on s'aperçoit qu'on peut vivre avec certains handicaps maintenant, et qu'on peut vivre...
Tout à fait exclu.
Non, sans être, justement. On sait qu'avec certains handicaps... Je vais parler, par exemple, d'une personne qui est atteinte d'une trisomie 21 pendant très longtemps. On disait, bon, ben, c'est fichu, quoi. Non, les personnes, quand elles sont adultes, alors elles peuvent... Il y a l'enfant qui peut être en milieu ordinaire ou pas. Et puis après, l'enfant peut grandir, peut aller à l'école, peut aller en fac. Et puis après, peut aller travailler, peut être autonome aussi. Donc maintenant, il y a des possibilités. Il faut qu'on vive avec... le handicap, notre société, elle doit vivre avec le handicap. Seulement, voilà. Il y a des moyens, des fois, de communication qui sont pas adaptés. Donc, c'est ce que nous disait Stéphanie, notamment. Donc, oui, non, moi, la LSF, les interprètes, j'en voudrais plusieurs. Parce que je me dis que ce sont aussi des métiers qui peuvent permettre, à l'heure où, paraît-il, on a un taux de chômage exponentiel, formons des interprètes en langue des signes française, en langue des signes anglaise, en langue des signes, ce que vous voulez, langue des signes corse. Pourquoi pas ?
Pourquoi
en langue
pas.
Des signes corse. Et puis ça fera sûrement du taf pour ces personnes-là. Paul, tu voulais réagir ?
Tout à l'heure.
Je me taise.
Non, pas du tout. Mais on est parti en pause avec notamment la question des experts. Hein, je ne me trompe pas.
On allait arriver, c'est d'assistance.
D'assistance, pardon. Mais je voulais juste, parce que du coup, dans ma petite tête, j'ai fait quelques digressions, mais encore une fois, et on en a déjà parlé sur ton plateau, dans les pays, d'autres pays étrangers, et là, je ne parle pas que de santé sexuelle, mais de manière générale, pour les situations de handicap, quand tu vois qu'aux États-Unis, il y a déjà plus de 30 ans, tout était déjà mis en place dans les aéroports, dans les rues, dans les parkings, dans les centres commerciaux, enfin de partout pour les personnes en situation de handicap, tu te dis que quand même plus de 30 ans après en France, ça progresse, mais c'est tellement lent.
Exactement.
C'est tellement lent.
Ah, on a l'impression d'être en fait des escargots. Hein. Il paraît d'ailleurs, les Anglais, ils aiment beaucoup ça, nous comparer à des escargots et à des grenouilles. Ouais, on a l'impression qu'on avance lentement. Tout à l'heure, on évoquait aussi, et je crois qu'Emma aimerait revenir là-dessus, on évoquait les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et on voudrait vraiment, peut-être, c'est ce que tu voulais insister sur le fait que c'est pas un manque de volonté.
Oui, qu'il y a aussi une volonté institutionnelle de former les équipes, de mettre en place des ateliers de sensibilisation, de s'outiller, etc. Mais que les équipes sont souvent démunies. En fait, on en fait le constat. Pourquoi ? Parce qu'elles se tournent vers nous et qu'elles nous demandent en aide, ou en tout cas en soutien, en appui. Et donc, du coup, ça montre bien qu'il y a une volonté, mais peut-être un manque pour l'instant. Elles se sentent un peu dans le brouillard par rapport à tout ça.
C'est un brouillard, voilà, qu'il faut... Allez.
Éclaircir,
voire carrément chasser. Alors, oui, tu parlais d'experts, et c'est vrai que j'aimerais qu'on aborde ce sujet, qui est un sujet qui est soumis à controverse. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les neutres, il y a ceux qui s'interrogent, un peu comme moi, qui est le sujet de l'assistant sexuel. C'est un métier, mais un métier qui n'est pas reconnu. C'est comme, on fera le parallèle peut-être ou pas plus tard, mais c'est comme des métiers en France où on va taxer les gens qui exercent cette activité. Pourtant, l'activité, elle, est considérée comme illégale. Donc, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu difficilement compréhensibles. Alors, l'assistant sexuel, je crois, Emma, tu peux peut-être nous expliquer, parce qu'on en avait parlé un petit peu en off, justement, de nous arrêter sur ce sujet.
Alors, en effet, c'est pour recontextualiser, l'assistance sexuelle, ça tombe sous le coup de la loi 2016 relative à la prostitution. Donc, c'est pas l'offre de prestations qui est illégale, mais c'est d'y faire recours ou de mettre en lien. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont formées à l'assistance sexuelle et qui accompagnent des personnes sur ces activités-là ne sont pas inquiétées de la justice. Par contre, les personnes qui ont recours ou les personnes qui téléphonent à la personne, à la travailleuse du sexe pour mettre en lien ou au travailleur du sexe, à l'assistant ou l'assistante sexuelle, tombe sous le coup de la loi.
Parce que, et alors c'est bien justement parce que c'est un lapsus qui n'en est pas, c'est qu'en fait, justement, l'activité, le métier n'est pas reconnu, donc il n'est pas reconnu légalement en France, donc on fait appel à des travailleurs ou travailleuses du sexe aussi. Paul,
oui,
vas-y.
Si je peux me permettre, en gros, dans le monde, tu as trois approches législatives de la prostitution. Tu as la prohibitionniste, la réglementariste et l'abolitionniste. La France, à contrario, par exemple, d'un pays comme l'Espagne, nous sommes un pays abolitionniste, c'est-à-dire que l'on tolère les femmes en situation de prostitution et on ne parlera donc pas de travailleuses, travailleurs du sexe, puisqu'en fait, on n'est pas dans un pays réglementariste, mais abolitionniste. On pourra parler de travailleurs et travailleuses du sexe, par exemple, pour un pays comme l'Espagne, puisque la prostitution est réglementée. Donc, déjà, rien que sur la question des sexpères, en fait, enfin, peu importe comment tu veux les appeler comment. Assistant sexuel. On est déjà dans cette problématique-là qui est plutôt sensible, puisque si on reconnaît les assistants, assistantes sexuelles, donc ça voudrait dire que c'est un travail et qu'il faudrait derrière rendre la prostitution réglementariste. Donc ça veut dire quoi ? Que si tout d'un coup on bouge de ce côté-là, encore une fois, on ouvre la belle boîte de Pandore et que derrière, il y aura des questions politiques, etc.
Eh bien, cette boîte de Pandore, elle a pourtant été entrouverte, c'est en 2020, avec Sophie Cluzel, hein, qui était alors secrétaire d'État au handicap et qui avait saisi le Comité consultatif national d'éthique au sujet, justement, de ces assistants sexuels. Alors, il y a d'autres personnes qui préfèrent le terme d'accompagnant sexuel. Et en réponse, ce fameux Comité consultatif national d'éthique avait réitéré son attachement au cadre légal actuel relatif à la prostitution et aux principes éthiques qui en découlent. Donc, c'est là où c'est effectivement, il y a cette... cet affrontement, c'est un bien grand mot, mais voilà, encore une fois, les pour, les contre, parce que il faut légiférer de toute façon, parce qu'il y a un cadre légal, et que, eh bien, quand on pense accompagnant ou assistance sexuelle, automatiquement, on fait référence à la prostitution. Alors, j'ai donc été fouillée, alors je ne dirai pas le nom, d'ailleurs je l'ai oublié, mais j'ai découvert un monsieur voilà, qui exerce, qui fait cette profession. Alors, il vient en France, mais je crois qu'il n'est pas installé en France, peut-être en Belgique ou quelque chose comme ça. Et il exerce, alors il est installé, si je me souviens bien, comme... je ne trouve plus le terme. Je suis comme toi, Emma, là, aujourd'hui. Ça doit être parce que c'est vendredi. Hein. Il a...
expert... Un cabinet ?
Pardon ? Oui, il a un cabinet, mais bon, un expert en sexualité. Ton métier
Sexothérapeute.
Merci. Là, c'est très dur, là, ce soir. Voilà, effectivement, je crois qu'il a un cabinet de sexothérapeute. Hein, et que, du coup, il propose aussi ses services en tant qu'accompagnant sexuel. Et alors, je vais vraiment vous dire la première fois. La première réaction, elle est épidermique. La première réaction, elle est épidermique. Et je me dis, mais waouh, waouh, ça veut dire que, en fait, il faut faire appel à une personne qui va nous montrer les gestes, qui va faire les gestes, qui va faire l'acte sexuel ou pas. Et il y a quelque chose, ouais, qui vraiment une vraie question qui s'est posée. Et moi, j'aimerais vraiment que vous me disiez, là, vous, autour de la table, comment vous percevez la chose. Alors, n'êtes pas obligé de le dire en votre nom ou quoi que ce soit, mais vraiment, qu'est-ce qui peut faire avancer, en tout cas, cette cause-là ? Et est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est essentiel ? Est-ce que c'est un métier qui doit être développé ou pas ?
Mais déjà, peut-être on peut rappeler que les assistants ou accompagnants sexuels, en fait, il y a une formation qui existe en France, qui est organisée par l'APAS, l'Association pour la promotion... de oui, l'accompagnement sexuel,
oui, voilà. La passe, c'est ça.
Voilà. Ou bien il y a en Suisse Corps Solidaire. Il y a aussi en Belgique Aditi. Donc, enfin bon, voilà, il y a des organismes qui sont limitrophes à la France qui forment des personnes pour devenir assistants sexuels. Donc, il y a une notion de formation, de suivi, et où en fait finalement c'est pour convenir de rendez-vous avec les personnes concernées, qui sont normalement limitées dans le temps, qui sont financées et rémunérées, parce que aussi pour mettre une barrière en fait entre le professionnel, la professionnelle et la personne concernée. Et voilà, déjà, ça permet de recadrer par rapport à la prostitution, disons, comme ça, ou le travail du sexe.
Et au niveau de l'assistanat sexuel, nous, pour en avoir rencontré Aditi en Belgique, c'est évidemment du rapport sexuel, mais pas que. Ça peut aussi être de la guidance physique, au même titre qu'en tant qu'éduxpé, vous pouvez guider physiquement le lavage des dents pour l'apprendre. Ben là, ça peut aussi fonctionner pour les questions de masturbation, pour tout ce qui touche au sexe, à la sexualité.
Paul ?
Mais c'est super nécessaire. Enfin, à mon sens, et là, je parle en tant que personne, je trouve que c'est formidable que ça arrive par le biais de l'association dont tu parles en France. Mais il faut bien évidemment démocratiser ça et faire en sorte que ça devienne monnaie courante, quoi.
Alors, les contres, les personnes qui s'inscrivent en contre vont te dire, oui, mais alors, sous prétexte, et je ne fais que citer ce que j'ai pu lire, hein, sous prétexte qu'on a un handicap, on peut profiter, puisque c'est aussi la question qui se pose avec la prostitution, profiter de la faiblesse, que ce soit la faiblesse financière ou autre d'une personne, et justement utiliser
la marchandisation des corps.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette question-là qui se pose, c'est la marchandisation des corps.
Oui, tout à fait, parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'offre à nous ? C'est soit légiférer, et donc du coup, dans ce sens, il y a des contre-arguments de ce type, ou bien c'est de faire une dérogation à la loi actuelle pour les personnes en situation de handicap. Et donc là, on a un autre argument qui est plutôt de dire, dans une société qu'on veut inclusive, pourquoi on dérogerait à la loi qui est faite, qui est la même pour tout le monde, seulement au titre de notre situation de handicap. Et en fait, de cette manière-là, ça nous réexclut d'une façon. Donc ça, on est pour, on est contre, c'est un peu les arguments.
C'est un débat en tout cas qui a eu le mérite d'être posé en 2020. On est en 2024. Que rien.
Alors, juste une question, pour le coup. Alors, c'est très bien de débattre sur la question du inclusif-exclusif, mais qu'en pensent les personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'on les a, du coup, interrogées sur cette question pour justement avoir une réponse des personnes les plus concernées, quoi.
Bah, elles-mêmes semblent disparates dans les avis, dans les positions. Il y a soit les dévalideuses en France qui sont plutôt contre pour l'argument que je viens de donner, ou bien Marcel Nuss notamment, qui est fondateur de La Passe, qui est lui du coup, qui est décédé récemment d'ailleurs, qui était pour. Et il y a aussi l'association Choisir ta vie, je crois, qui est pour. Enfin, voilà, il y a des. En fait, c'est tout aussi disparate que de manière que dans la population générale.
D'accord.
Et ça aurait été très intéressant, effectivement, d'avoir comme témoignage, mais c'est compliqué, ça a vraiment été très compliqué, et celui d'un ou d'une assistante sexuelle, accompagnant ou accompagnante, et aussi d'une personne qui aurait un handicap et qui aurait pu témoigner, justement, si elle avait recours à... Alors, je ne sais pas. Est-ce que l'idée... Pardon, Stéphanie, mais est-ce que l'idée d'avoir recours... Bon, un assistant, un accompagnant sexuel, c'est quelque chose qui, toi, te choque ?
Ça aurait été bien.
Ah !
Voilà. Pour voilà. Tout le monde, pourquoi nous priver ? Pourquoi les autres, ils ont droit ? Donc,
Aude, le métier de sexothérapeute, est-ce que, quand on exerce ce métier-là, on entend beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent, et notamment au niveau du handicap. Est-ce que cette question, elle est arrivée déjà chez toi, cette question de l'accompagnant sexuel ?
Alors non, moi personnellement, elle m'est pas encore arrivée. Et moi, la nuance que je mettrais aussi là-dedans, c'est que souvent, quand on pense sexualité, on pense en tant que personne valide, très souvent hétéro, et on pense sexualité partagée. Évidemment que ces questions-là sont imposées, évidemment que ça doit changer ou pas au mieux pour les personnes concernées, mais la sexualité, ce n'est pas que ça. Souvent, c'est ce qui ressort dans les établissements ou avec les professionnels que je peux rencontrer, ou même des fois des parents, c'est « Ah oui, mais les prostituées, la prostitution, bien sûr. » Mais il y a tout un truc à faire avant, parce que c'est pareil, proposer des personnes ou travailleuses du sexe ou assistantes sexuelles à des personnes qui n'ont pas eu avant cette fameuse éducation sexuelle, mais comme plein d'autres personnes peuvent ne pas l'avoir eue, c'est pas forcément toujours productif. Par contre, il faudrait effectivement écouter les personnes concernées et leur demander à elles, parce que nous, encore une fois, on est des professionnels de la question, mais vraiment pas concernés.
Alors, je parlais tout à l'heure, on faisait référence à cette fameuse marchandisation du corps des femmes. J'ai lu que, en fait, les demandeurs sont majoritairement des hommes. Donc, y a cette question qui se pose aussi de cette marchandisation du corps et notamment du corps de la femme. Et en fait, les questions aussi qu'on peut se poser, ce sont des questions qui sont davantage pragmatiques. Comment on évalue une demande ? Sur quels critères on va se baser pour dire oui ou non, vous avez droit à un accompagnant ou une accompagnante sexuelle ? Après, comment aussi, ça peut-être c'est une question, comment on inclut les proches, la famille, dans cette démarche ? Et puis, qui va dire oui, ok, on va délivrer la prestation. Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est voilà, il y a toutes ces questions qui peuvent se poser, qui sont des questions concrètes en fait.
Paul. Juste une petite parenthèse au niveau des chiffres. Donc tu disais que c'était majoritairement des hommes, en tout cas en situation de handicap, qui pouvaient être demandeurs, c'est bien ça ?
Oui, des demandes en tout cas qui ont été vraisemblablement recensées.
Bon, il faut savoir, et là on est bien d'accord, c'est si on considère que l'accompagnement dans la sexuelle est à comparer avec la situation de prostitution, je dis bien... Enfin, c'est pas ce que je dis personnellement parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas, si on fait le comparatif, il faut savoir que dans le cadre de la prostitution en France, 99% des personnes qui ont recours à la prostitution sont des hommes. C'est-à-dire que 1% seulement sont des femmes. Donc bien évidemment, rien de plus de choquant non plus d'entendre à un moment donné qu'il y a une majorité d'hommes en situation de handicap qui font la demande.
Alors choquant, c'est surtout que oui, c'est finalement c'est la continuité, oui. Alors que ça reste choquant. Ça reste choquant.
Non, alors c'est en fait à l'instar de notre société finalement. J'irai même plus loin, je pense que peut-être qu'on ne donne pas les moyens, par exemple, aux femmes de se tourner vers ce genre de service. Je me souviens d'une étude que j'ai menée pendant mon master dans le cadre de mon mémoire et où il y avait une femme en situation de handicap qui me disait je souhaitais avoir recours à l'assistance, l'accompagnement sexuel. Et puis en fait, je me suis arrêtée dans mes démarches parce que mon entourage m'a fait savoir que c'était un peu non mais ça va pas quoi. Donc il y a aussi une pression sociale qui est indéniable.
Et puis aussi, pareil, je rebondis par rapport à ce que disait Aude tout à l'heure, par rapport aux représentations qu'on pouvait en avoir, et du coup ce que tu dis aussi sur l'entourage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par accompagnant sexuel. Parce que dans les demandes, peut-être qu'il y aura des personnes en situation de handicap qui souhaiteront aller jusqu'au rapport sexuel, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour qui l'accompagnement sexuel, ça va être l'apprentissage donc à la masturbation, féminine ou masculine. Ça peut être aussi l'apprentissage de qu'est-ce que c'est que le désir, le plaisir, ce que ça va être une caresse, les zones érogènes, qu'est-ce que ça fait que toucher un corps ou que celui-ci soit touché quand c'est possible. Donc, il y a plein de cas possibles. Mais quand on va parler d'accompagnant sexuel, je pense que dans les représentations générales, ça va être... tout de suite,
pénétration,
c'est la pénétration en
ouais. Fait. Pénis dans le vagin. Mais pour un petit peu un fun fact, pardon.
Oui,
avec
Alain Jauré, du coup, de Aditi en Belgique, qui s'occupe de coordonner, en tout cas de former les assistants, les accompagnants sexuels en Belgique. Il nous a raconté qu'une fois, en fait, il y avait une demande d'accompagnement sexuel et puis la personne qui s'est retrouvée à faire l'accompagnement auprès de la personne concernée, en fait, elle était juste en train de prendre des douches avec le jeune homme parce que c'était ça qui lui plaisait, finalement, d'être sous la douche avec quelqu'un.
Et puisque tu parles de l'association Aditi, il y a une décision quand même de la mutualité de Flandre Orientale qui a été de rembourser en partie, à concurrence de 40 euros, les premières consultations que les personnes porteuses d'un handicap ou âgées, donc ça veut dire qu'il y a ça aussi, hein, au niveau de l'âge, ont avec une association spécialisée dans le conseil. Donc on voit qu'il y a des pays où ça avance, en tout cas, ça avance si on peut parler d'avancer, hein, ce n'est pas un jugement, mais en tout cas, oui, les choses bougent. Voilà, rembourser en partie à hauteur de 40 euros. Oui, Paul.
Toi qui es une grande fan de musique, tu te souviens de... Excusez-nous pour la petite digression. C'est comme dans la chanson d'Antoine, lorsqu'il disait dans les années 70-80 que la société aura bougé lorsqu'on trouvera la pilule chez Monoprix. Tu te rappelles de ça ?
Absolument pas. Nous n'avons pas les mêmes références musicales. Arrête, tu sais très bien.
T'as des goûts pires que les miens, s'il te plaît, mon chat. Mais blague à part, non, mais tu vois, aujourd'hui, ça paraît ringard 20-30 ans après où effectivement, ça a bougé de ce côté-là. Mais peut-être que sur cette thématique, peut-être que la grande avancée sera quand on pourra rembourser par l'assurance maladie ou peu importe quel autre organisme des séances d'accompagnant à la sexualité pour les personnes en situation de handicap et les seniors.
Et oui, alors c'est fou parce qu'effectivement, il y a les seniors qui viennent aussi là-dedans. Et les seniors à notre époque, imaginez l'époque à laquelle ils vivaient, dans laquelle ils vivaient quand ils avaient une sexualité, sachant qu'il y a des seniors qui ont une sexualité tout épanouie et qu'on est senior en entreprise à partir de 40 ans. Donc j'espère qu'à 40 ans, on peut continuer à avoir une sexualité épanouie, en tout cas à la découvrir. Donc Stéphanie, elle nous a dit oui, il en faut. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion peut-être de discuter avec des familles de ce sujet ? Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été abordé peut-être avec des personnes ?
Non, on n'en parlait pas vraiment. Donc non, j'en parlais plus avec des amis. Mais...
Et justement, les amis le perçoivent comment ?
Il y en a qui ils connaissent bien et d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, on est curieux, on pose des questions parce que c'est vrai que beaucoup de sûr, on est un peu en retard. Et donc, on pose des questions par curieux, c'est quoi, c'est comme ça, c'est comment on fait. Et donc, voilà.
Et Aude, justement, ça t'arrive d'intervenir auprès des personnes qui viennent te voir en disant, voilà, vraiment en posant le schéma, j'ai envie de dire, et dire, c'est comme ci, c'est comme ça, faites comme ci, faites comme ça.
Alors oui, mais en utilisant des sexes en plastique, en utilisant des images. Et tu parlais de parents tout à l'heure, mais moi, souvent, je me suis retrouvée face à des parents qui me disaient « Ok, mais nous, ça, on ne va pas le faire. On ne va pas montrer à notre enfant comment se masturber et c'est complètement normal. Vous, vous n'avez pas le droit. Les éduques n'ont pas le droit non plus. » Se pose une limite parce que en dehors de tout ce qui est assistanat sexuel, enfin moi je parle vraiment du côté purement éducatif, des personnes qui n'ont pas la représentation des images, qui n'en parlent pas entre pairs comme n'importe quel ado pourrait commencer à se masturber ou je ne sais quoi. Comment on fait ? Et c'est plus les échanges que j'ai avec les parents, c'est plus à ce niveau-là.
Parce que là, tu poses un peu la question de la prévention des risques. Les personnes qui sont concernées notamment par le TSA, si tu veux expliquer ce qui peut arriver malheureusement.
Bah, c'est que, par exemple, la masturbation des femmes est beaucoup moins acceptée et on en parle beaucoup moins. Mais par exemple, la masturbation des hommes, là, j'imagine que tout le monde imagine quelqu'un qui a sa main et qui masturbe son sexe. Sauf que, par exemple, si on prend un public TSA, donc avec autisme, c'est sensoriel, purement. Et il n'y a pas la représentation ou des pornos ou des potes qui nous montrent. Et ça peut être des frottements jusqu'à se blesser. Et ça peut être de la masturbation, je ne peux pas dire mal faite, parce que chacun se masturbe bien comme il veut. Mais en tout cas, fait dans un cadre ou avec des objets qui ne sont pas du tout adaptés. Et dans ces cas-là, on a beau proposer des fois tous les visuels du monde, toutes les vidéos, s'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès. Et là, se pose une grosse limite de comment on fait, parce qu'il n'y a pas... Et avoir recours à une travailleuse ou un travailleur du sexe qui n'est pas formé, qui n'est pas spécialiste dans le handicap, ce n'est pas non plus une super solution.
Paul ?
Oui, oui. Non, mais pour le coup, tu vois, là...
Oui, et puis se poser c'est aussi, évident, même en amont, on parlait, alors, OK, les personnes qui sont adultes, et puis il y a les enfants. On a le droit, on n'a pas le droit. Je veux dire, on peut pas... Enfin, on le sait, on n'a pas le droit de toucher le corps d'un enfant. Donc là aussi se pose cette problématique.
Bon, là, même dans les pays où l'assistanat sexuel est autorisé, c'est à partir de la majorité. Ça, je pense que dans n'importe quel pays, par contre...
Je me demande en Belgique si c'est pas la majorité sexuelle, mais je à vérifier.
Paul, la majorité sexuelle en France ? Ah, oups, pardon.
Non, attends. Là, tu me poses...
Une colle.
Non, c'est pas ça, c'est que je le sais en plus. Non, c'est 15. Ouais. 15.
Mais oui, parce
c'est 15
que ça a été débattu.
Oui, c'est 15 ans, excuse-moi, c'est 15 ans, bien sûr. Non, je réfléchissais en même temps, c'est pour ça, excuse-moi, ma non-réactivité, mais vous parliez, enfin, tout ça aussi parle de la question du consentement. On ne touche pas les enfants, on ne touche pas les personnes en situation de handicap, bien évidemment. Mais du coup, les personnes en situation de handicap mineures ou majeures restent un public vulnérable plus dans le cadre des violences sexuelles intra, extra-familiales, conjugales, etc. Il y a un énorme boulot à faire de ce côté-là en termes de protection de ce public en particulier et donc de la population.
Quoi qu'il en soit, on le voit, on l'entend, cette problématique, elle existe, elle est concrète pour les personnes qui sont en situation de handicap, elle est concrète. Paul, tu peux peut-être le rappeler, ne pas avoir une vie sexuelle épanouie, une vie affective épanouie, ça a des conséquences ?
Énorme, puisque à partir du moment, si on regarde, je ne l'ai pas en tête exactement, mais la définition de l'Organisation mondiale de santé qui définit la santé sexuelle, c'est quand même un état de bien-être. Alors, l'Organisation mondiale de santé, quand même, entend par là que si tu as une santé sexuelle épanouie, ça contribue à ton bien-être, quoi.
Ton bien-être général, ta
général,
santé
et puis ta santé mentale. C'est-à-dire que, la sexualité, c'est quand même un truc super sympa. Ça crée de la dopamine, ça offre des endorphines. Enfin, je veux dire, quand tout va bien de ce côté-là, ça va vachement mieux. Un coup de stress et un rapport sexuel solitaire ou partagé permet quand même d'aller mieux, quoi. Faut l'entendre aussi accessoirement, donc et puis inversement, c'est-à-dire que si ta santé mentale elle va pas bien, ta santé sexuelle non plus. Ouais, tu vois la transverse. Bon, alors là, on parle de situation de handicap, donc. Les personnes en situation de handicap, au même titre que les autres, et encore plus peut-être que les autres, ont besoin d'être davantage protégées dans le cadre des violences. Et pour ce qui est de leur état de bien-être et leur accès à un épanouissement sexuel, il faut permettre ça. Et permettre ça, c'est aussi accepter d'en parler de façon un peu plus ouverte et de démocratiser tout simplement les choses, quoi.
Donc, si je comprends bien, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait une vraie politique en matière de vie affective et de santé sexuelle, que ce soit pour tout le monde, mais surtout que ce soit pour les personnes en situation de handicap, une vraie politique. Je ne parle pas simplement de mettre une loi comme une circulaire, une vraie politique en place qui permet de légiférer sur des, par exemple, des, l'activité ou le métier ou la profession de, d'accompagnant sexuel.
Tu vas me trouver tatillon, hein, mais c'est pas grave, on s'aime quand même.
Ou pas.
Oh, saleté, va. Heureusement que t'es loin, sinon je serais
vite embêtée. C'est pour ça que j'en profite.
Canaille. Bref, blague à part, et ben voilà, je décroche. Non, c'est pas une histoire de
politique,
c'est une histoire de volonté politique. Parce que finalement, tu vas me dire...
J'adore, puisqu'en fait, c'est, à chaque fois, je reprends, quand on a eu des émissions, c'est toujours moi qui ai repris. Et petite, justement, petite pensée pour Arnaud et Jean-Marc, parce qu'à chaque fois qu'ils ont dit c'est la politique, c'est moi qui ai repris. Non, c'est une matière de, une histoire de volonté politique. Ah bah ça, tu fais bien de me reprendre.
Mais c'est une histoire de volonté politique. Regarde, pour les cours d'éducation à la santé sexuelle, il y a quand même des textes qui disent que tous les gamins, quel que soit leur âge à l'école, doivent avoir 3 séances par année d'éducation à la santé sexuelle. Bon, c'est écrit. Pour autant, c'est pas parce que c'est politique que derrière, il y a la volonté. Bon, et bah pour les personnes en situation de handicap, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné, tout le monde est bien gentil. On écrit des beaux textes, on fait une belle vitrine, tout ça. Mais derrière, est-ce qu'il y a une réelle volonté ? Parce que la réelle volonté, elle vient de qui ? Elle vient de la société civile. On sait qu'elle y est, à peu près, même s'il y a des désaccords, mais il y a une volonté. Il y a une volonté du tissu associatif. On le voit autour de cette table, notamment. N'est-ce pas ? On a...
Le n'est-ce pas, tu n'as pas eu le choix d'acquiescer, Stéphanie. Moi aussi, j'aurais eu peur.
Donc maintenant, est-ce qu'il y a une autre volonté possible sur ces questions ?
C'est la question, justement, c'est la question qu'on pose. Mais en tout cas, alors moi, le petit bémol, je le mettrais au niveau de la société civile, tout simplement parce que toute la société civile, et peut-être la majorité, peut-être me trompais-je, mais n'est pas forcément impliquée. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes ici sur ce plateau, notamment de personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap, elles nous ont régulièrement fait savoir qu'elles se sentaient seules. Voilà, et que si on n'était pas concerné directement par le handicap ou par une, quelle que soit la problématique, on s'y intéressait pas forcément. Donc toute la société civile n'est pas forcément impliquée parce que n'est pas forcément informée ou en tout cas suffisamment informée. Emma ?
Oui, moi je rejoins Paul sur l'idée qu'il existe un cadre et qu'il s'agit de volonté politique. Et si déjà ce qui existait était adapté aux personnes en situation de handicap dans toute la diversité que cela requiert, on ferait déjà un grand pas en avant.
Et je crois qu'en plus, peut-être encore une fois me trompais-je, mais plus on avance dans le temps, plus la société est faite de personnes porteuses de handicap. C'est une réalité. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est exponentiel. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui font que, on l'a vu aussi, il y a ce fameux, cette fameuse pandémie qui a créé, ou en tout cas qui a été révélateur de troubles mentaux, de troubles psy, donc, ou qui a peut-être effectivement été un déclencheur, et exacerbé la chose. Donc, et il y a des naissances aussi. Alors, je ne sais plus, j'avais vu des chiffres qui étaient assez faramineux, que ce soit sur la trisomie, sur l'autisme.
Et puis même, très sûrement, enfin, je vous crois, moi non plus, je te crois, je ne connais pas les chiffres, mais de manière générale, je pense que si on adapte pour les personnes en situation de handicap, dans la diversité du coup que cela requiert, ça va faire gagner à la société dans son ensemble. Et au-delà de ça, je pense qu'une personne même non en situation de handicap finira par le devenir ou le sera à un moment T. Enfin, il y a vraiment cette idée de fluidité, on va dire, dans la situation de handicap. C'est fluctuant, en tout cas. C'est peut-être pas le parallèle n'est pas toujours au même titre, n'est peut-être pas très...
Pertinent.
Merci. Mais par exemple, des parents qui se promènent avec une poussette en centre-ville et si les trottoirs ne sont pas adaptés, à ce moment-là, on peut penser à une situation de handicap.
Oui, Oui, je vais en profiter aussi que Stéphanie est là. Je me souviens d'avoir participé à un café signe organisé par le pôle surdité de Corse ici dans la galerie et à la radio. Et en fait, on faisait ce qu'on appelait, alors je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là, mais on était en file indienne et une première personne disait en langue des signes française un mot et puis transmettait à la deuxième personne, troisième, etc. Et il y avait des personnes, j'avais trouvé ça super parce qu'il y avait des personnes sourdes et malentendantes et il y avait aussi des personnes entendantes et on arrivait au final et je me souviens d'ailleurs le mot, on était parti d'un hamac et j'étais la dernière personne à dire le mot donc, et c'était j'ai dit éléphant, donc rien à voir, donc problème de communication, problème de, enfin vraiment d'échange, de compréhension forcément, et tout ça pour dire que à un moment donné le handicap, il existe. Le handicap, c'est pour ça qu'on appelle ça le handicap. Il handicape dans la vie de tous les jours et on l'entend dans la vie affective et sexuelle. Paul, on aurait des choses encore à dire sur le sujet, hein ?
Moi, j'aimerais bien quand même que les filles, si elles sont d'accord, et puis que ce soit Aude, Emma ou Stéphanie, qu'on puisse avoir un petit mot quand même sur, même si la santé sexuelle, c'est les plaisirs et que dans un monde idéal, ce serait plus que merveilleux. J'aimerais qu'on ait quand même un petit mot sur le travail remarquable aussi que font Aude et Emma dans le cadre du travail autour des violences sexuelles intra- et extra-familiales pour les personnes en situation de handicap.
Oui, à la suite des caravanes Move Enfants, on a rejoint en effet l'équipe sur la cellule scientifique. En fait, moi, je venais d'arriver sur le territoire et j'ai appris du coup cet événement sur plusieurs dates en Corse. En plus, je connaissais, de nom la Civis, je connaissais pas Arnaud Gallet ni Move Enfants, mais voilà. Et ça me paraissait important qu'on soit là. Déjà à Bastia, mais aussi sur toutes les dates, puisqu'on a une couverture régionale, et parce que souvent, on se rend compte que les personnes en situation de handicap, c'est un peu les oubliés, c'est un peu, ils sont un peu dans l'angle mort des politiques publiques, et voilà.
Oui, c'est ce qu'on disait, la volonté politique, toujours, Aude.
Et que les personnes en situation de handicap sont 5 fois plus à risque d'être victimes de violences sexistes et sexuelles. Et il y a un chiffre, je crois que 98% des femmes...
88.
Non, plus. C'est quasiment 100%.
C'est 88% des femmes autistes ont déjà subi des violences sexuelles, dont 47% avant leurs 14 ans.
Oui, okay. Oui, en dessous de 15 ans.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? J'ai dit violences sexuelles.
Oh, c'est pareil. Oui. Non, mais oui. J'ai pris peur de ce que j'ai dit.
Oui, donc des chiffres qui sont affolants. Qu'est-ce qu'on attend ? La volonté de la part de nos politiques, on l'a bien compris.
Ah, j'ai rien dit.
Absolument pas.
Pas encore.
Absolument pas.
Et là, pour le coup, je pense que ça va encore plus loin que la politique. C'est que souvent, et c'est assez violent, je trouve, de verbaliser ça, mais déjà que les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes, elles ne sont pas reconnues. Mais là, dans l'inconscient collectif, ce qu'on entend souvent, c'est parce qu'elles, on les viole, elles, on les agresse. Il y a tellement un manque d'humanisation des femmes, encore plus des femmes en situation de handicap, que pour l'inconscient collectif, les violences sexistes et sexuelles sur les femmes en situation de handicap, c'est autre qu'un angle mort. Là, c'est vraiment.
Ouais, comme si une violence sexuelle répondait à un désir. Exactement. Et non à un souhait de dominer.
Oui, enfin, on peut aussi préciser que du coup, être une femme, c'est déjà être un public vulnérable. Être en plus une femme en situation de handicap, c'est être encore plus vulnérable. Et quand vous parlez de domination, on est sur... et ça, je le répéterai encore et encore, mais les violences sexuelles, le viol, l'agression sexuelle, ça reste quand même un crime de domination masculine, quoi. On est en plein dedans. Donc, plus on va choisir un public qui cumule des vulnérabilités... Et plus c'est de la domination, quoi. Et sauf que dans les agresseurs, le nombre de femmes agresseuses.
Bon, allez, féminisons.
féminisant, agresseureux. Bien, alors souvent on dit oui, mais il y a quand même des femmes qui violent, qui sont agresseureux, etc. C'est vrai. Mais bon, quand tu vois le prorata du nombre de femmes agresseureux et le nombre d'hommes, non, on est sur quand même un crime de domination masculine, quoi.
Oui, et là, dans le cadre de la cellule scientifique, il y a aussi le prisme de l'âge qui vient ajouter une nouvelle difficulté, peut-être pour les personnes victimes, ou j'allais dire de parler, mais aussi en fait derrière d'être écoutées et protégées.
Je crois que ça pourrait être le thème d'une prochaine émission, justement, la sexualité à tout âge, quand on est majeur, bien sûr, hein, mais jusqu'à, voilà.
Non, la sexualité, à tout âge, mais oui. Pas que quand on est majeur. Un enfant de 3 ans qui va découvrir son pénis ou sa vulve, etc., on est déjà dans une sexualité. Alors, pas une sexualité
partagée,
bien évidemment, mais de découverte. Dans les bébés dans le ventre, hein, nos fœtus, bien le nombre de fois où tu vas faire une échographie et tu vois le bébé, fille ou garçon, on s'en fout, mais se tripoter les parties génitales. On est déjà dans de la santé sexuelle, tu vois. Mais, évidemment, à un âge où on n'est pas dans le partage, etc. Enfin, ça, dans le développement psycho-affectif de l'enfant.
La découverte de son propre corps,
oui,
en fait.
Exactement.
Mais c'est une forme de sexualité, d'où le fait que dans l'inconscient collectif, sexualité égale sexualité partagée, alors que pas forcément.
Tout.
Mais pour rassurer tout le monde, on parle évidemment pas de la même chose
voilà.
Quand on intervient nos ateliers avec des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, que quand on est avec des adultes.
On va même le repréciser un peu mieux, c'est-à-dire que non, pour ceux et celles qui pensent que les cours d'éducation à la santé sexuelle, affective, relationnelle en établissement scolaire, ce n'est ni pour apprendre aux enfants à se masturber, ni pour apprendre aux petits garçons à devenir des petites filles et inversement, ni pour apprendre l'homosexualité, c'est tout simplement pour prévenir des risques qui pourraient arriver aux enfants et leur apprendre le consentement, c'est-à-dire que leur corps est leur corps et que, entre autres, les adultes n'ont pas à toucher les corps des enfants, notamment.
Et dans une société où, si on ne leur apprend pas, bah, comment expliquer la distinction entre sa vulve, son anus, son épaule, de pourquoi lui peut me toucher l'épaule mais pas les fesses, enfin, c'est... trop important.
Oui, je pense que ça pourrait être vraiment le sujet d'une émission entière. Justement, la sexualité au cours de l'âge, les différences, l'apprentissage de la sexualité, la formation à l'apprentissage à la sexualité. Voilà, on va y réfléchir. Merci, vraiment. Alors, vous voulez peut-être ajouter des choses ? Il y a peut-être des sujets, des thèmes qu'on n'a pas abordés, que vous aimeriez aborder Nos Bastiaises qui sont venues, qui sont passées par Vico avant d'arriver à Ajaccio.
Oui.
Il faudra m'expliquer.
Oui. Très belle route.
Oui,
non, pas forcément ajouter, mais c'est sûr que là, comme ça, en une heure, deux heures, c'est un petit peu condensé. Il y a tellement de choses à dire et de nuances parfois. Et donc, du coup, c'est un exercice un peu compliqué sur deux heures. Mais merci à vous de nous avoir reçus. Et puis,
merci
on reviendra.
Venue. Surtout, merci d'être venu, je vous assure. C'est un combat. C'est rare quand on a dû batailler pour avoir des personnes. Alors vous, non, je sais que bon, en plus, c'est votre métier hein, aussi. Et c'est votre engagement, certainement aussi. Ce bien-être, cet épanouissement à la vie affective et sexuelle. Mais ça a été compliqué parce qu'on parlait de handicap. Et encore une fois, j'ai l'impression, je le disais en préambule, la sexualité, ça reste encore, il y a du tabou, beaucoup de tabous. Le handicap, n'en parlons pas, les deux réunis, waouh! Alors nous sommes ravis sur Frequenza Nostra avec ces 3S, justement, de pouvoir un peu lever ces tabous-là. Hein. On essaye de ne pas trop en avoir de tabou, même si on en a toujours un petit peu. Mais en tout cas, on essaye. Paul, tu voulais peut-être ajouter certainement quelque chose ?
Bien, j'en profite tout simplement pour inviter Aude, Emma et donc Stéphanie au Isulanouda du 31 mai courant. Qui sera donc la nuit de la sexualité,
la
des
nuit
sexualités,
des sexualités.
Sur Frequenza Nostra, comme l'année dernière. Et c'est l'occasion d'une émission de santé sexuelle un peu plus, un peu moins, quoi.
Informelle.
Oui, ou on va parler vraiment sans tabou. En fait, c'est le dîner entre les copains et les copines, mais c'est chez Frequenza Nostra et c'est l'occasion de parler avec un peu moins de cadre de tous les champs de la santé sexuelle. Donc, vous êtes
les bienvenus.
Oui, parce
que, alors, juste effectivement, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, on peut parler plus librement sur l'antenne. Déjà, il faut savoir qu'on a un gendarme et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... voilà. Oui, on a un gendarme, tu sais. Avant, ça s'appelait le CSA, maintenant, ça s'appelle l'ARCOM. Alors, il ne nous empêche pas de parler de santé sexuelle, bien au contraire, vraiment bien au contraire. Mais voilà, il y a peut-être des termes, ou il y a peut-être des présentations, ou il y a peut-être des activités, des pratiques qu'ils n'aimeraient pas trop qu'on diffuse avant une certaine heure. Et je pense
à
la valise de Jade qui était juste fantastique. Voilà, on vous expliquera. Si vous qui nous écoutez ou nous suivez là, vous nous dites mais qu'est-ce que c'est cette valise de Jade, je vous invite à aller sur le site web de Frequenza Nostra, la rubrique Isula Nude, à vous remonter un peu le fil et vous chercher ou la valise de Jade ou la nuit des sexualités. Eh bien, il y a le podcast. Voilà. Stéphanie, alors merci forcément d'être
merci
venue.
Merci à vous.
Est-ce que pour nous, c'était important, Paul le disait, d'avoir un témoignage. Est-ce que c'est important de venir témoigner justement quand on...
Oui, c'est important parce qu'on a besoin d'être à l'écoute. Et en se sentant tellement à part, à côté, et je voudrais qu'on en parle tout le temps, tous les jours. Et je voudrais que dans le milieu de hôpitaux, dans la gendarmerie, tout ça, ils mettent en place pour les personnes sourdes et malentendantes pour pouvoir un minimum de communication. Voilà, mais pas que à l'hôpital, mais un peu partout, quoi. Et c'est vraiment très important.
Il faut imaginer... Ah oui, c'est pour ça que je citais... Pardon, je m'étais un peu perdue. Je citais cet exercice avec le pôle sûreté de Corse. C'est parce que... On était quelques-uns, quelques-unes à se mettre dans la peau, c'est-à-dire qu'on avait un casque justement qui nous empêchait d'entendre quoi que ce soit. Donc, on s'est mis dans votre peau, dans vos oreilles.
Ouais.
Et alors, surtout quand on n'a pas cette habitude-là, c'était hyper perturbant.
C'est très perturbant. Et on n'entend pas, on ne comprend pas qui dit, ou alors il faut qu'on lit sur les lèvres, mais passer toute la journée, on est très fatigué de lire sur les lèvres. Il y a le brouhaha aussi, des fois. Donc, c'est épuisant.
C'est épuisant. J'imagine que cette émission, ce moment, il a été épuisant, Stéphanie. Donc, merci.
Merci vraiment. À vous.
Merci beaucoup. Aude, à bientôt.
À bientôt.
On l'a dit, le 31 mai, bloqué la date.
Merci pour l'invitation et
voilà.
On sera là.
Super,
génial.
Super. Ben voilà, c'est fait. Alors, attention, hein. Maintenant, je ne tolère plus de « on sera là » et « on n'est pas là ». Parce que maintenant, je viens chercher les personnes qui me disent qu'elles seront là.
Alors, attends, juste quand même, il faut le dire. Hein,
on est descendu avec Emma,
Vanley, sont deux personnes, au-delà de la structure qu'elle représente, mais deux personnes de parole. Donc, je crois qu'on peut compter sur elle.
Je crois merci. Bien aussi. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission Isula Nude. Il était question de sexualité, il était question de handicap, il était question de vie affective quand on a un handicap, quel qu'il soit. Nous étions donc en compagnie de Emma et Aude d'Intime Agir, de Stéphanie. Alors Stéphanie, je le précise juste, malentendante, mais ce n'est pas ce qui te fait, ce qui fait que tu es toi, ce n'est pas ce qui te caractérise, c'est juste voilà,
moi.
C'est toi aussi, mais voilà, tu n'es pas que ça, voilà. Non. Et bien sûr, Paul, hein, Paul, c'est 3S, ça va, c'est 3S, tout va bien, tout est en place.
C'est 3S, est fatigué.
Eh bien, comment te dire, ouais, tu veux qu'on parle de la fatigue de Frequenza Nostra aussi?
Écoute, on va aller se boire un verre et puis on va se raconter tous nos
voilà,
malheurs.
C'est ça. Merci beaucoup, merci à... Eh bien... Tu pourrais peut-être la présenter.
Ah mais oui,
justement.
Je présente Nafissa. Viens.
Alors, allez, c'est l'occasion.
Nafissa Guitoun, qui est d'une part, on s'est rencontrés dans le cadre de C3S, puisque c'est notre bénévole. Et au-delà d'être notre bénévole, qu'un jour on aimerait embaucher, hein, je passe l'info et le message,
Pour ça, on le rappelle, les associations ont besoin d'aide hein, de la part des institutions, des financeurs, etc., qu'elles soient locales, territoriales ou nationales. Voilà.
Tout à fait. Et mais du coup, c'est aussi une amie. Alors, Nafissa Guitoun, bienvenue sur l'émission radio de Frequenza Nostra. Et on t'écoute deux petites minutes.
Alors, on peut peut-être monter le micro. Bonjour, Nafissa.
Ah, bah, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici et ravie d'être nouveau membre de C3S.
Juste une petite question. Là, ces échanges qu'on a eus là, autour de ce thème de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap, est-ce que c'est quelque chose déjà, vous, qui vous étiez interrogée là-dessus ou pas du tout?
Oh, je me suis interrogée, oui, parce que je m'intéresse à tout le monde, en fait, et je ne fais pas de différence entre les gens, entre les êtres humains. On est tous les mêmes, donc oui, c'est, pour moi, c'est essentiel, comme dirait Paul.
Super. Eh bien, merci. Mesdames, au 31 mai, pour celles qui sont là, hein, bon, on sait, vous l'avez dit oui toutes les deux, donc voilà, Stéphanie, l'invitation est toujours valable aussi. Allez, on part en musique avec notre amie Adrienne. Alors, pas Adrienne, mais Adrienne. Qu'est-ce qu'elle veut, Adrienne? Eh bien, elle veut un mec. Allez,
ah, Adrienne,
c'est parti. Oui, c'est parti.
Non, je veux pas. Je veux pas un ciné, rigoler, je veux un mec, je veux un mec, ouais je m'entête, mes beaux airs, ça m'inquiète, je veux un mec, viens le mec, ton avis j'en ai rien à foutre, tes amis j'en ai rien à foutre, ton boulot et ta gym, ton mal de ta clim, ton âme j'en ai rien à foutre, ton argent encore moins. Calmer, oui, je vais continuer. Oublie les fleurs, je n'ai pas l'heure. Attends-moi, des illusions, j'en ai pas loin. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi, ou je meurs. Non, je veux pas. Ton ex qui te hante, ta moto qui te plante. Du beau temps j'en ai rien à foutre, de la pluie j'en ai rien à foutre. Je veux un mec, pas du vent, regarde-moi. Non je vais pas me reprendre en main, me calmer, prendre un petit bain. Oui je vais rester dans le coin, si t'es un mec, rejoins-moi.